Vous écoutez Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Nos émissions sont disponibles en balado et chaque capsule peut être téléchargée via laplumedefeu.com. Aube, épisode 24.
Home is the smallest frontier.
Guillaume, c'est pas supposé d'être Space, the final frontier?
Ah oui!
Dans ce 24e épisode, Aube vous invite dans sa navette spatiale, direction l'espace.
Au sommaire, où en sommes-nous avec la conquête spatiale?
Petit pas pour l'homme ou témoignage de ce grand événement?
Monsieur Tubercil dans l'espace.
Orson Welles ou la guerre des mondes adaptée à la radio.
Une entrevue avec les jeunes de la Maison Aurore.
Et pour conclure, Aube vous a concocté un petit radiothéâtre du nom de Opéra d'espace.
On te propose de te rassembler autour de valeurs humaines, écologiques et collectives. De prendre action, simplement, par une prise de conscience.
Le mot-clé? Décollage.
Selon le sociologue Pierre Bourdieu, nous vivons dans notre habitus. Nous connaissons les codes symboliques de notre milieu de vie inconsciemment. De la même façon qu'un poisson n'a pas de conscience de l'eau qui l'entoure, les pressions de notre quotidien passent inaperçues. Dans les différents milieux où j'interagissais, les symboliques avaient toujours été les mêmes. On était rendu pas mal bon à suivre les normes puis à faire comme si tout était normal. L'idée comme quoi la structure du champ conditionne les interactions de ceux qui y évoluent est centrale pour Bourdieu. Comme personne ne voit vraiment la structure, personne ne remet rien en question. Mais au fond, on s'en pose des questions. C'est juste qu'on les pose pas à personne. Parce que tout le monde a l'air d'avoir trouvé la réponse. Je voyais pas comment, moi comme une pièce, je fitais dans toute cette immense casse-tête. Tout le monde compétitionnait pour trouver sa place. Moi, j'avais peur de pas trouver la mienne. Ou pire, d'être pris pour toujours dans celle qu'on m'aurait assignée. J'avais besoin de sortir du cadre, d'aller voir comment les gens vivent de l'autre côté des frontières. Les points de vue étaient devenus trop petits. Les angles trop aigus. J'avais besoin d'espace. Je suis parti sur le pouce dans l'univers pour aller explorer les possibilités infinies.
Hey man, tu t'en vas où de même?
Je sais pas, j'ai besoin de changer d'atmosphère. J'irais bien faire un tour en orbite.
Ok, en bas. Je te laisse grand chemin quelque part.
C'est fou, en prenant de l'altitude, on voit tout le cadre se déployer sous nos yeux. Hein? C'est quoi ici qui a l'air d'un échiquier?
Ça, mon Guillaume, ça c'est les forêts du Québec. Du moins, ce qui en reste après les coupes à blanc. En tout cas, que toi pas, ça dure pas trop longtemps. À mesure que tu prends de l'altitude, ça finit par disparaître.
Les gratte-ciels sont disparus. Les trous dans les forêts aussi. Jusqu'au dernier moment, j'ai gardé les yeux fixés sur les sables bitumineux dans le nord de l'Alberta. Tout finissait par disparaître. Tout ce qu'on pouvait voir, c'est un petit point fragile dans le vide.
Bon, je pense que je te laisse ici.
Le voyageur qui m'avait pris en pouce m'a laissé à l'auberge du Dark Side of the Moon, où moi puis des astronautes, on a fait le party avec des martiens. On faisait des shots comme s'il n'y avait plus rien de grave. Tu réalises tout de suite en quittant la gravité que soudainement, t'as plus le poids de tout le temps être en train d'améliorer ton CV sur tes épaules. T'as percé le mur de la structure. Ici, t'es libre d'aller dans toutes tes dimensions. T'es envahi d'un grand vertige devant l'infini des possibilités de l'univers. Ça te donne envie de sauter en bas d'une chute de 100 mètres sur Jupiter, de traverser des milliers de territoires étendus en train transplutonien, de visiter tous les musées de la galaxie parce que soudainement, t'as une passion pour l'art en 5 dimensions. Toujours selon le sociologue Bourdieu, nous intériorisons toute la symbolique inhérente à la position que l'on occupe dans le champ donné. On en vient à légitimiser les frontières et la place que chacun occupe. Je sais pas si c'est à cause du Saturn Cush, mais j'ai réalisé que j'étais vraiment haut au-dessus des frontières. D'ici, je voyais bien qu'il y avait de la place en masse à l'extérieur des structures. Que c'était plus facile de placer ma pièce de casse-tête si je faisais dépasser un petit peu ma personnalité. Puis peut-être qu'à force de dépasser, quelqu'un ou quelque chose allait finir par retracer les lignes.
I'm a
Visionnaire ou fou? On connaît tous 20 milieux sous les mers de Jules Verne. On a lu ou entendu parler de 1984 de George Orwell. On connaît peut-être moins quand même les romans de Barjavel. Le futur et la technologie font bon ménage et inspirent les esprits créatifs qui exportent dans un avenir reconstruit des inspirations actuelles esquissées sous une autre forme. Restons dans l'aspiration qui nous anime à explorer le grand vide et regardons au loin, juste un moment. Tous les passionnés et les geeks lunaires connaissent Elon Musk. Homme d'affaires brillant, ingénieur et inventeur, Elon a construit un empire. La création et la revente de Zip2 et de PayPal lui ont permis d'accumuler une fortune assez colossale. En juin 2002, il lance SpaceX, une entreprise qui fabrique des fusées ou véhicules de lancement spatiaux. Il prend également la tête de Tesla Motors, une entreprise de fabrication de voitures électriques. Il est également président du conseil d'administration de SolarCity qui produit des services et du matériel photovoltaïque. Pour faire face à des difficultés financières, il signe un contrat avec la NASA pour ravitailler la Station Spatiale Internationale. Et désormais, son projet, c'est d'envisager l'installation d'une colonie de 80 000 individus sur Mars. Mars est inspirante pour plus d'une raison. Planète très inhospitalière actuellement, l'eau a existé quand même un jour sur Mars. Mais il y a 3,8 milliards d'années, Mars a perdu son champ magnétique peut-être à cause d'une énorme collision avec un objet d'une taille planétaire qui l'a rendue inhospitalière. Elle est balayée actuellement par les vents solaires violents qui auraient fait disparaître l'eau de la surface avec le temps, emprisonnant éventuellement les traces d'eau sous forme de glace sous la surface. La mission ExoMars 2018 aura justement pour tâche notamment d'aller sonder la surface de la planète à 2 mètres de profondeur afin de rechercher des traces de vie présentes ou passées. Côté transport, est-ce que la fusée est un bon moyen? Eh bien le site IFL Science compare le transport en fusée pour dépasser l'orbite terrestre à un voyage entre les USA et la Grande-Bretagne que l'on ferait à l'aide d'une catapulte. Il s'agit d'une force donc très grossière qui coûte beaucoup d'argent et explose après une seule utilisation. En plus de transporter son combustible, eh bien, une fusée elle doit transporter l'oxygène permettant sa combustion. SpaceX travaille actuellement sur une fusée hybride, à mi-chemin entre une fusée et un avion. Elon Musk croit profondément que la réutilisation du matériel est ce qui rendra possible les voyages interplanétaires. L'entreprise Reaction Engines de Grande-Bretagne travaille également sur un autre prototype d'hybride, le Skylon Space Plane. Parler de météo, c'est de l'ordre de la conversation fatigue, c'est-à-dire que c'est un sujet qui n'apporte rien mais qui permet d'établir en général la communication avec un autre individu. C'est un sujet qui ne sert à rien. Sauf quand il s'agit de météo sur Titan. Alors Titan, c'est un satellite de Saturne. Sur Titan, les saisons durent 7 ans et demi, les mers sont composées d'hydrocarbures et l'hiver, il y fait moins 150 degrés. C'est ce que nous rapporte Cassini, la sonde présente sur Titan depuis 2004 et qui arrêtera sa mission en 2017. Pour finir, rappelons que la technologie et l'exploration spatiale qui en est le terrain de jeu n'est rien sans l'éthique qui devrait l'accompagner. Nous parlions d'Elon Musk comme d'un homme d'affaires ingénieux, visionnaire, mais il a également indiqué ses craintes concernant l'intelligence artificielle. Et il n'est pas le seul, puisque Bill Gates, l'astrophysicien Stephen Hawking et l'informaticien Stuart Russell ont mis en garde contre l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment la dérive couvre les logiciels de deep learning. Pour rappel, ces logiciels ne sont plus capables uniquement d'exécuter des tâches programmées, mais aussi d'apprendre de leurs erreurs et de modifier leur comportement en conséquence. Les auteurs de la philosophie grecque, d'autres qui ont parlé d'éthique tels Weber ou Spinoza, sont encore et toujours d'actualité. Les anciens penseurs qui ont marqué l'histoire des idées demeurent les lueurs qui doivent éclairer nos décisions. Donc avant de vous plonger dans la technologie et l'efficacité, l'utilité, la logistique et l'opérationnel, avant même de partir pour votre prochain voyage spatial, avant d'avoir les cheveux pleins d'étoiles, regardez en bas, vers les pages jaunies d'ouvrages essentiels et souvenez-vous que la fin poursuivie de telles explorations reste et demeure l'homme.
Texte et narration, Aurélie Suberchico.
Oh, c'était très impressionnant. On était émerveillés parce que là, c'était quand même il y a longtemps. Ça fait combien d'années là, je ne sais pas. En 1969, bon, vous voyez, donc,
25 juillet 1969, j'étais en colonie de vacances familiales dans un petit village du sud-est de la France.
On était très heureux, on essayait de voir le soir, je me souviens qu'on est sortis pour voir si on voyait quelqu'un qui rentrait sur la Lune, mais naturellement, il fallait attendre. Puis, comme j'étais à la campagne, en pleine campagne, bon, on voyait bien la Lune, naturellement, mais on était toutes les étoiles, mais on n'était pas très informés de la technologie nouvelle. Alors, pour nous, c'était un peu quelque chose d'extraordinaire, quoi.
Évidemment, à ces moments-là, je ne lisais pas les journaux, j'écoutais pas la radio ni la télé. On jouait dehors, dans la forêt, les montagnes, le lac. Mais un jour, la famille qui m'accueillait dans le petit village d'Allinges a dit que le lendemain, il y aurait un homme qui marcherait sur la Lune. Je croyais que c'était un mythe, un film, une fiction.
Même maman disait, voyons donc, ça n'existe pas ces choses-là, c'est pas vrai. Je disais, mais oui maman, là ça y est, c'est vrai, ils sont partis sur la Lune.
Mais non, le lendemain, dans l'après-midi, je ne me souviens pas de l'heure exacte, on était dans la rue. À l'époque, les gens n'étaient pas très riches dans les petits villages, donc on avait une télé, que quelqu'un m'est sorti dans la rue avec un long fil.
Et quand M. Armstrong a monté sur la Lune, là, les premiers pas, c'est quand même qu'on a vu ça à la télévision, c'était quand même très impressionnant. On se demandait, est-ce que c'est vrai?
Et là, on a vu ça, tout grésillant, avec plein de petits picots en noir et blanc, et cette voix assurée de ce type-là, je ne me souviens plus de son nom, là, qui effectivement a sauté du sas de la fusée, ou du LEM, je ne sais plus, et qui a bondi comme ça sur le sol lunaire avec ses cratères, puis dans ses grosses bottes. Puis je me souviens de la parole, évidemment, anglaise, que tout le monde a entendue. C'est bien un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Hein, ils ont fait la traduction simultanée.
Et je me souviens qu'un peu plus tard, quand... J'étais à Paris et qu'il n'y avait pas d'appartement. Et les gens faisaient des blagues, disaient oh, « on va louer un appartement sur la Lune, on va être les premiers à aller habiter sur la Lune. » Je disais « ben moi je suis d'accord, tout de suite là, j'avais le goût de savoir qu'est-ce qui se passait. »
On était tellement émus tout le monde et c'était comme un courant qui se répandait. On se dirait « formidable !» Combien l'être humain est génial, il est capable de conquérir le monde entier.
Oui, je ne sais pas, Mars, c'est plus... J'aurais peur d'aller sur Mars, moi, parce que c'est une planète plus... Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils sont plus méchants qu'ailleurs, mais enfin. Les petits hommes verts, là, tout ça, ils sont déjà venus, il me semble. Bon, c'est ce qu'on nous a dit, en tout cas. Il y en a qui les ont vus, moi, je ne les ai pas vus.
Il n'y a pas eu trop de suite, mais à l'époque, on était très impressionnés. Des milliards à être impressionnés.
Non, mais ça m'a toujours fasciné, la Lune, je vous dis. L'autre côté de la Lune, ben, j'espère, mais je sais, j'espère bien qu'il y a quelque chose. Mais moi, à mon âge, je sais que je ne verrai pas ça, parce que on est toujours en pleine recherche, là. Ça se peut qu'il y ait quelque chose. Peut-être, mais c'est mes petits-enfants ou mes arrière-petits-enfants qui iront voir ça parce que moi, j'ai 84 ans. Mon nom, moi, c'est Camille Baligan, mon nom de famille.
Dans la salle d'hibernation, puis je viens de programmer des œuvres de science-fiction dans les rêves d'apprentissage vectoriel des cercueils de cryogénie de l'équipage de Hope. Pourquoi la science-fiction? Bah, premièrement, pour l'inspiration que ça peut apporter. Que ce soit la visualisation de mondes étranges ou l'anticipation d'événements à venir, l'ouverture d'esprit, puis la prise de conscience. Je pense que c'est aussi un bon moyen de s'interroger sur notre place dans l'univers et un excellent moyen de s'intéresser à la science. C'est aussi plein de bonnes idées, comment réagir diplomatiquement lors d'une rencontre avec des xénomorphes que les Terriens appellent affectueusement des extraterrestres. C'est aussi une excellente façon de voyager dans le temps. La conscience des auteurs du passé, que ce soit la tête de Jules Verne ou d'Isaac Asimov, sont des terreaux très fertiles d'idées maintenant réalisé. Einstein disait souvent que l'imagination était plus importante que l'intelligence.
Ah, man, t'es là? Hey, j'ai fait un drôle de rêve, Phil. J'ai rêvé que je vivais sur une planète étrange du nom de Terra Nova, où tout le monde était pareil. Puis, ma sœur mangeait un ticket pour avoir parqué son vaisseau spatial devant la maison.
Pour l'auteur Florence Morin, situer l'action dans l'espace permet de soulever toutes les choses qui la dérangent ici sur Terre. Comme quoi, il vaut parfois la peine de prendre un pas de recul. La voici, qui nous fait le plaisir d'un extrait de son roman, Les Trois Terres.
Projetons-nous dans l'espace, dans 1000 ans. La Terre, dépossédée de ses richesses, est devenue invivable et a forcé l'espèce humaine à s'aventurer dans le froid interstellaire. Après de longues recherches, Salutera, la Terre du Salut, a été trouvée et accueillie, grâce à une logistique inouïe, 8 milliards d'individus. Dotés d'une nouvelle chance, les colons ont pourtant marché dans les pas de leurs prédécesseurs, manquant de près de causer une autre catastrophe planétaire. La crise conduit à la création du Grand État, un État tout-puissant, sévère, intolérant, dont l'objectif est clair: empêcher l'humanité de commettre à nouveau ses vieilles erreurs. Fort de ses idéaux, le gouvernement met en branle un tout nouveau projet, Renoven, une troisième planète où l'humanité atteindra enfin la sagesse qui lui est destinée. Yeux verts, teint hâlé, cheveux dorés, les Renoviens, tous identiques, sont ignorants de la notion de différence raciale. Les règles qui régissent leur planète ne laissent aucune place à l'individualité, donnant la primauté au bien-être collectif. Fier de l'apparent équilibre créé, le Grand État s'octroie des droits et se permet d'ignorer les protestations de son peuple, raffermissant sa mainmise sur la galaxie. C'est dans cet univers qu'évolue la section S323, cinq explorateurs d'origine rénovienne au service du ministère de l'Exploration spatiale. Au cours de leurs expéditions, ils font cependant la rencontre d'un ordre rebelle, la Vième Justus, qui remet en cause les décisions du Grand État et apporte les preuves incriminantes de son implication dans plusieurs dossiers sulfureux. Jeza est en permission et retourne chez ses parents après une mission dangereuse.
Mademoiselle?
C'était un agent du Grand État. Ce n'était jamais bon signe quand l'un d'eux s'intéressait à vous.
Le bureau des infractions vient de me transmettre les coordonnées d'un délit d'atterrissage par transporteur magnétique en zone résidentielle. Êtes-vous bien la personne ayant été déposée au 66 degrés de longitude et 50 de latitude à 10h34 et 21 secondes?
Le bracelet personnel de Jeza indiquait bien les coordonnées énoncées et l'heure avait à peine avancé.
Oui, pourquoi?
Je me vois dans l'obligation de vous remettre un constat d'infraction, jeune dame. Il est strictement défendu d'utiliser des méthodes de transport extra-atmosphérique en dehors de la zone prévue à cet effet près du bureau des transports.
Pardon? Mais on m'a déposé chez moi de cette façon des centaines de fois. C'est absurde!
Je suis désolé de votre contrariété, mademoiselle. Veuillez me fournir votre clé d'identité immédiatement, s'il vous plaît. Autrement, je devrais ajouter à la contravention des frais supplémentaires d'entrave à l'application de la loi.
Elle obtempéra sous la menace de l'officier, malgré qu'elle se sentit révoltée de ce tout nouveau règlement qui n'avait aucun sens. Elle décrocha le bâtonnet d'identification de son bracelet et le lui tendit. Il inséra le petit objet oblong dans l'un des orifices de la tablette, saisit quelques données sur son écran tactile et lui rendit la clé.
Une période de paie sera retenue directement à la source pour le règlement de l'amende. Deux points de désobéissance civile seront ajoutés à votre dossier. Merci et bonne journée.
Jeza, ma fille, quel plaisir de te voir! Mais qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Tu es toute raide, tu n'es pas contente d'être à la maison?
Je viens de recevoir un constat d'infraction. Depuis quand on n'a plus le droit d'atterrir devant sa maison?
Ah, ça fait déjà quelques mois, ma chérie. Alors tu sais bien que chaque règlement est là pour une raison. Le Grand État les met en place pour nous assurer la meilleure qualité de vie.
Mais c'est insensé! Cette mesure n'a rien à voir avec la sécurité, maman. Tu vois bien que c'est seulement un moyen de centraliser les déplacements pour être au courant de qui arrive et qui s'en va.
Je t'interdis de remettre en doute les bonnes intentions du gouvernement. Nous avons beaucoup de chance de vivre dans une société aussi harmonieuse et c'est grâce à lui. Alors s'il te plaît, tu vas prendre tes responsabilités, payer ta contravention de bonne foi et t'en remettre.
Que sa mère prenne le parti du Grand État lui était complètement insupportable. Comment pouvait-elle lui faire des remontrances alors qu'elle revenait chez elle pour la première fois en 2 ans? Comment pouvait-elle lui parler de responsabilité alors qu'elle avait risqué sa vie pour un Grand État qui l'avait envoyé candidement sur le territoire des êtres les plus sanguinaires de la galaxie, Comment pouvait-elle ignorer ses tourments après qu'il eût été attaqué par un ordre de cingler dans une caverne en plein désert?
Vous venez d'entendre un extrait du livre « Les Trois Terres » écrit par Florence Morin. Vous trouverez « Les Trois Terres » sur la grande bibliothèque de l'Internet au lecteurensérie.com. Téléchargez-le ou utilisez le code AUBE pour obtenir la livraison gratuite.
Change in temperature. A slight atmospheric disturbance of undetermined origin is reported over Nova Scotia.
Le 30 octobre 1938, sur le réseau CBS aux États-Unis, la troupe Mercury Theatre interprète une dramatique radio. Where you will be entertained by the music of Raymond Rachello and his orchestra. Orson Welles y livre une adaptation du roman La guerre des mondes de l'écrivain H.G. Wells. La mémoire collective a retenu que l'émission aurait causé un vent de panique à travers les États-Unis, des dizaines de milliers d'auditeurs croyant qu'il s'agissait d'un bulletin d'information et qu'une attaque extraterrestre était en cours.
Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News.
Plaçons-nous dans le contexte historique de l'époque. Nous venons tout juste de sortir de la Grande Dépression. La guerre menace en Europe et l'Amérique s'inquiète de l'avenir. Orson Welles, 23 ans, pris par les répétitions de sa pièce de théâtre « Denton », n'a pas le temps de participer activement aux séances d'écriture de la fiction radio, et les scénaristes adaptateurs ne sont pas très enthousiasmés par le sujet.
À la veille de la diffusion, Welles prend l'initiative, en accord avec la troupe, de situer l'action dans le présent. Après une nuit de réécriture, une nouvelle version, qui rompt avec l'unité de lieu narrative, est répétée. Sans le savoir, il allait passer à l'histoire.
We now return you to the music of Ramon Rachello, playing for you in the Meridian Room of the Park Plaza Hotel, situated in downtown New York.
Tout le succès de ce moment de radio réside dans la brillante mise en scène de Welles. La pièce était constituée d'une succession de flashs d'informations, d'interviews et de reportages.
Le coup de maître était le réalisme. Bien qu'étant annoncé au début de la diffusion comme l'adaptation d'un livre, le programme débute par un bulletin météo, puis une séquence musicale brutalement interrompue par un bulletin d'alerte exceptionnel qui annonçait à 20h15 que les Martiens venaient de débarquer dans New Jersey.
Aussitôt, la panique s'empare du pays. La nouvelle faisait ressurgir les angoisses profondes de la nation. Les réservistes de la région inondent même les casernes d'appel pour proposer de se battre.
Ce prodigieux scénario catastrophe est réussi au-delà de toute espérance. L'équipe du psychologue Henley Cantrill a même récolté rapidement après l'événement de nombreux témoignages de personnes ayant paniqué durant la diffusion radio. Certains témoins ont même rapporté avoir ressenti des symptômes physiques tels que l'odeur des gaz des Martiens ainsi que la chaleur des rayons émis par leurs armes. Le Washington Post rapporta le cas d'un auditeur mort d'une crise cardiaque durant l'émission et une auditrice intentant un procès à CBS en réclamant à la chaîne $50,000 pour lui avoir causé un choc nerveux.
Dans les jours suivants, plusieurs centaines de lettres de plainte sont envoyées aux responsables de la radio et Orson Welles dut faire des excuses publiques.
Bien que la panique fût réelle, elle fut amplifiée par les médias écrits. En siphonnant les revues publicitaires de la presse papier durant la crise de 1929, la radio leur avait gravement nui. Ces derniers ont donc sauté sur la chance fournie par l'adaptation de « La guerre des mondes » pour discréditer la radio comme source d'information.
Le New York Times écrit « La nation dans son ensemble fait toujours face au danger d'informations incomplètes et mal comprises sur un média qui doit encore faire ses preuves quant à sa compétence à traiter l'information. » Le tout, bien sûr, crée un précédent. Le président de la Commission fédérale des communications a obtenu l'accord des chaînes de radio pour que celles-ci n'utilisent plus de flashs d'informations fictifs. Bref, cette escalade médiatique permit à Welles de passer à l'histoire.
Cet incident démontre bien à quel point nous sommes prêts à croire ce que les médias diffusent.
Rappelons-nous les auditeurs qui ressentaient même les symptômes physiques de la guerre des mondes.
À cette époque, les Martiens étaient le sujet le plus susceptible d'ébranler la société américaine, et Welles l'avait bien compris. Difficile de faire autrement. Quelque chose qu'on ne connaît pas, qui vient d'ailleurs, qui nous en veut, qui peut frapper n'importe qui, n'importe où et sans prévenir. Aujourd'hui, les Martiens n'auraient probablement pas le même impact sur notre société moderne. Mais demandons-nous ceci. Existe-t-il un sujet qui, amplifié par les médias, pourrait nous ébranler fondamentalement? Quelque chose qu'on connaît peu, qui vient d'ailleurs, qui nous en veut et qui peut frapper n'importe qui, n'importe où et sans prévenir.
now. We're not more than 25 feet away. Can you hear it now? Professor Pearson.
Yes, Professor.
Can you tell us the meaning of that scraping noise inside the thing?
Possibly the unequal cooling of its surface.
I say, do you still think it's a meteor, Professor?
Nous interrompons ce programme pour un bulletin régulier. Comme d'habitude, il fait une certaine température, il y a un certain trafic sur un certain pont. De retour à la programmation régulière.
We continue now with our piano interlude.
Texte et narration de Martin Junior Pelletier et de Guillaume Lambe.
Ladies and gentlemen, I've just been handed a message that came in.
L'espace? Qui parle d'espace? Je n'ai jamais vu l'espace de toute ma vie, du moins ne l'ai-je jamais contemplé, dans sa plus grande splendeur, loin des compartimentations minimes de mon esprit absolu, et pourtant si faible. Rien n'est fiable lorsque l'on parle de l'esprit. De la plus petite aporie jusqu'aux grandes amplitudes de la pensée, rien n'est à l'abri de l'échec, de la tourmente et du désastre assuré par notre finitude. Ainsi dis-je que l'espace ne m'est jamais apparu, car en effet, ma finitude m'empêche pleinement d'en absorber la complétude. Je ne dis cependant pas que l'homme est voué à demeurer un être de peu de choses dans un monde d'immensité. Il est à sa manière un contemplateur de l'espace, mais ce que nous pensons pouvoir ouvrir dans notre esprit en regardant le ciel se trouve bien plutôt au creux de nos omoplates dans notre chair profonde. Nous sommes l'espace et le vide autant que ces multiples étoiles réglées dans le firmament. Qu'on appelle cela âme, énergie, atome ou schème de l'ultime étant, notre existence dispose d'une alchimie architecturale splendide. Ici, l'espace peut être contemplé dans sa totalité, à travers nos actes finis, dans leur résonance infinie. Des hommes tenteront de faire rugir et vibrer le monde par leurs horreurs et leurs actes fanatiques, et d'autres souriront à l'inconnu pour y produire la graine et faire germer un soupçon d'espoir. Tout résonne, mes chers amis. Ne l'oubliez jamais. Et dans le vide de l'espace, l'espace n'existe plus, ni le temps, simplement l'acte dans son sens éternel. Celui que vous chercherez à lui donner chaque jour sous l'œil ardent de votre vérité. Je suis, en ce jour, un Parisien heureux. Établi sur mon toit et observant le ciel dans les étoiles juchées, l'horreur et le désastre ne pourront jamais éteindre ces lumières.
Chewie, is that you?
Ce groupe palais moralisé complètement démoli.
Votre commandant qui vous rappelle que vous êtes toujours à l'écoute de Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Température extérieure, moins 150 degrés Celsius.
Plutôt en début d'émission, nous avons entendu où en sommes-nous dans la conquête spatiale?
Petit pas pour l'homme ou témoignage de ce grand événement?
Monsieur Tubercil, version Space.
Orson Welles ou la guerre des mondes telle qu'adaptée à la radio.
Si vous avez manqué la première partie, vous pouvez téléporter nos émissions dans votre ordinateur plus tout équipé via laplumedefeu.com.
À venir dans la deuxième partie,
entrevue avec les jeunes de la Maison d'Aurore.
L'opéra de l'espace, un radiothéâtre.
Jodorowsky, Dune.
Et la pollution vue de l'espace.
Et pour l'instant, voici les nouvelles du front.
L'Observatoire du Mont-Mégantic est un endroit privilégié pour observer le ciel étoilé au Québec. En effet, reconnaissant l'importance de contempler l'univers et de se poser toutes sortes de questions, les citoyens de la région ont formé une réserve de ciel étoilé. Sur plus de 5000 km², l'éclairage a été adapté pour permettre de voir aussi loin que possible et pour tenter de répondre au plus de questions possibles. Ici Guillaume Lambe et voici les nouvelles du front. En astronomie, À chaque fois qu'on répond à une question, de nouvelles encore plus excitantes émergent. Au début du siècle, nous ne pouvions voir plus loin que les 100 milliards d'étoiles de notre galaxie. Il était généralement accepté que l'univers, bien qu'infini, se limitait à celle-ci. En 1919, Edwin Hubble détermine que le point lumineux qu'il observe n'est pas une étoile comme les autres, mais bien une toute autre galaxie, composée, elle aussi, de centaines de milliards d'étoiles. Aujourd'hui, grâce au télescope qui porte le nom du célèbre astronome, on a prouvé l'existence d'au moins 100 milliards de galaxies. L'univers est donc 100 milliards de fois plus grand que ce qu'on pouvait penser il y a tout juste 100 ans. D'ailleurs, on sait qu'il continue à s'agrandir, les galaxies s'éloignant toujours les unes des autres. Ces observations sont cruciales pour deux raisons. D'abord, si les galaxies s'éloignent les unes des autres, c'est qu'elles proviendraient d'un seul endroit. C'est la théorie du Big Bang. Ensuite, il semble que l'univers s'accélère, comme quoi quelque chose semble créer de l'univers constamment. C'est ce qu'on appelle la matière noire et l'énergie noire. Même si nous ne savons toujours pas ce qu'elles sont, leur existence fait consensus. Ces deux formes de matière et d'énergie composeraient à elles seules 95% de la matière de l'univers. On peut donc dire qu'on n'est pas près d'avoir fini d'observer l'univers et d'avoir percé tous ses secrets. D'ailleurs, n'est-ce pas le rêve qui nous anime tous que de comprendre qu'est-ce que nous faisons ici et qu'est-ce qu'il peut bien y avoir au-delà? Y a-t-il vraiment une fin à ça? L'univers, c'est avant tout une infinie question. Pour Aube, c'était Guillaume Lambe avec les Nouvelles du Front.
Pour notre petite balade dans l'espace, l'astronaute que je suis a été se balader du côté de la Maison d'Aurore, rencontrer l'avant-garde de la civilisation humaine, ce qu'il et elle pensaient de l'espace, de l'univers et du reste. Je ramène dans mon vaisseau spatial leurs curieuses réponses. À la question « Quel est votre film de science-fiction préféré? », la discussion a naturellement dérivé sur les jeux vidéo.
Ben moi, mon émission préférée de c'est Comic Vesta. C'est la même chose, ça parle de la galaxie, ça parle des étoiles, ça parle des trous noirs, ça parle de plein de choses.
Je suis sur Mars. C'est un film où c'est une équipe qui va sur Mars. Je pense qu'ils veulent trouver comme des objets.
Moi, mon jeu préféré, c'est Battlefield 4.
Ah oui!
Parce que c'est aussi de la science. Puis, moi, j'aime ça parce que ça a beaucoup de l'action.
C'est un jeu qui s'appelle Stupid Test. C'est que tu réponds à des questions. Et à la fin du jeu, ils te posent des questions de l'espace.
Mon jeu préféré, c'est Call of Duty parce qu'il y a de la science. Puis, ils inventent des trucs là, pour les bras. Ils montent ici, et maintenant que tu te fais couper la main, ils vont te la refaire.
À la question « Est-ce que vous croyez que l'humain va un jour voyager dans l'espace? » Leurs réponses furent
« Ben, moi, oui, puis non, parce que, peut-être dans le futur, parce qu'on aura plus de technologie. Mais ma raison de non, c'est parce que c'est trop dangereux, puis que ça prendrait trop longtemps, même si dans le temps de l'espace, le temps va plus vite, ça serait juste trop long. »
Ben oui, parce que les astronautes ils ont comme une combinaison spéciale pour respirer. Mais c'est un peu dangereux en voyageant dans l'espace parce qu'il peut y avoir des météorites qui peuvent cogner la fusée. Puis il peut y avoir un trou.
La fusée va tomber dans une terre, elle va se briser et ça va exploser.
Oui, parce que ça est déjà arrivé, il y a des personnes qui sont allées sur la Lune.
Une fois, venue du marché avec ma mère, j'avais vu une planète.
Laquelle?
Je sais pas, mais en tout cas, c'était la nuit.
On dit que Pluton va peut-être revivre.
Ben, il nous a expliqué le Big Bang, comment ça l'a créé, puis la première... Si je me rappelle, c'est que la première planète qui a existé, c'était le Soleil.
Ce qui est le plus important, c'est que l'astronaute doit savoir comment on conduit une fusée. Il doit savoir comment la contrôler pour pas s'écraser sur une Terre.
J'étais très intéressée de savoir si les jeunes pensaient qu'il existait des civilisations ailleurs dans l'univers.
Ben, moi, je pense que oui, il y a d'autres vies sur d'autres planètes, parce que moi puis ma mère, des fois, on regarde le ciel, puis il y a comme des genres de
des étoiles, qu'on pense que c'est des étoiles, mais c'est pas des étoiles, ça bouge trop vite puis ça disparaît.
Parce que nous, on a vu deux planètes de plus, puis on l'a pas encore exploré, fait que je penserais qu'il y aurait des extraterrestres ou des habitants.
Ben nous, les humains, on sait pas encore. Peut-être dans le futur, on va inventer des radars. Ou peut-être les extraterrestres existent, mais peut-être dans une galaxie très loin.
Oui, parce que les extraterrestres se promènent partout avec leur vaisseau.
Parce qu'il y a d'autres humains qui s'en vont par là-bas, à l'espace. Il y a d'autres humains qui s'en vont à l'espace.
Ma question suivante était donc de savoir si les jeunes croyaient que la Terre avait déjà été visitée par d'autres êtres venus d'ailleurs. Et pourquoi pas, si nous sommes encore visités en ce moment par celle-ci?
Aussi parce que j'ai vu aussi quelque chose sur les extraterrestres. Ils ont trouvé des corps extraterrestres dans la Terre, mais déjà morts, genre. Ils sont en train de les étudier. Puis des fois, des explorateurs qui vont dans le mont Everest ou comme ça, ils voient des choses blanches ou noires en train de flotter dans les airs, c'est sûr.
Ben, les extraterrestres, ils peuvent déjà voyager la Terre parce qu'on ne sait pas si on voyageait au futur quand on n'était pas là.
Ben, on ne sait pas encore. Peut-être les extraterrestres, ils peuvent inventer comme du métal, puis plein de radars, des boutons comme ça. Donc peut-être eux aussi, ils peuvent se faire une propre fusée.
Moi, je dis que non, parce que pour moi, des extraterrestres, c'est des microbes, puis ça peut pas construire nécessairement une fusée spatiale pour venir sur Terre, comme sur Mars, ils ont trouvé des microbes, mais eux, ils sont pas assez intelligents pour construire des fusées ou peu importe.
Ma question suivante était, pensez-vous un jour voyager dans l'espace vous-même?
Moi, je voudrais beaucoup aller dans l'espace et ça serait sécuritaire puis ça coûterait pas très cher parce que c'est très beau l'espace puis c'est beau.
Moi, je dirais que non parce que je voudrais pas être astronaute parce que t'as plusieurs risques à prendre puis t'as moins de chances de survivre.
Non, parce que je suis pas millionnaire puis ça coûte vraiment, mais vraiment, vraiment cher.
Ben, c'est vrai que l'espace, c'est beau. Mais ce qui est le plus dangereux, c'est que, ce qui est un peu mélangeant, c'est quand on retourne sur Terre, on voit plein de trucs verts, donc là, c'est difficile d'aller à notre maison, à notre pays.
Un grand merci à César, bénévole à la Maison d'Aurore, située sur le plateau Mont-Royal, d'avoir coordonné cette activité avec nous. Si ça vous tente, vous aussi, de vous prêter au jeu du voyage dans l'espace imaginaire, nous aimerions connaître vos réponses sur Revue-Aube, la page Facebook de l'émission. Pour Aube, c'était un reportage de Philippe Laramé.
Ce que je peux vous proposer pour regarder l'espace de plus proche, si vous avez un ordinateur, vous écrivez « espace 3D » puis vous allez voir comme tout l'espace en 3D, les planètes dans l'orbite, tout comme ça.
Pour notre épisode, je voulais savoir ce qu'on pouvait voir à partir de l'espace en regardant la Terre. J'ai rencontré Miguel Tremblay, qui est physicien et qui travaille dans le domaine de la modélisation atmosphérique.
Bonjour Miguel, ça va bien?
Bonjour, oui, ça va très bien.
Miguel, tu m'as parlé qu'on voyait quelque chose à partir de l'espace quand on regardait la Chine, une construction humaine dans le fond. Puis là, moi j'étais sûr que c'était le mur de Chine duquel tu voulais me parler, mais c'est pas le mur de Chine du tout, là.
Non, c'est un smog qui s'étend sur des centaines de kilomètres, au-delà de 1 millier de kilomètres, qui fait une région complète de la Chine, ce qui fait que de l'espace, à l'œil nu, on peut voir une trace brunâtre sur toute cette région-là de la Chine.
De façon permanente, il y a toujours un smog sur cette grande région-là de la Chine.
Ça dépend des conditions météorologiques. De façon générale, ce sont les grandes villes comme Shanghai, Beijing, qui, elles, sont sous un smog, mais à certains moments, on peut voir ça sur des milliers de kilomètres.
des milliers de kilomètres. C'est toute la côte est au complet de la Chine.
Oui, c'est un petit peu comme s'il y avait un smog permanent qui partait de Québec, qui se rendait un petit peu plus loin que Toronto. Donc, tout le corridor Québec-Windsor serait sur un smog épais, dense, où on ne voit pas à plus de 100 mètres.
Ah oui, hein? Quand on est sur place, on s'en rend compte aussi. C'est pas juste nous de l'espace qui le voient. Si on habite en Chine, au quotidien, on côtoie ce nuage-là.
Le gouvernement est au courant. La population, c'est plus récent parce que quand le smog a commencé, ce qu'ils disaient, c'est que c'était tout simplement un brouillard. La population, il n'y avait pas des scientifiques chinois qui disaient « Oui, c'est un smog, c'est un épisode de poussière dû à de la pollution mise dans l'atmosphère. Faites attention, restez chez vous. »
Attends, je veux être sûr de bien comprendre. Oui. Tu me dis, ce qui était véhiculé comme message, c'était quoi?
Il y avait pas message qui était véhiculé, c'est-à-dire que c'était un brouillard qui était là, qui était arrivé. Les gens ne se sont pas dit « c'est un smog ». Le concept de smog n'était pas là et n'était pas expliqué par le gouvernement. Donc, c'était tout simplement un brouillard. Puis, c'est pas un smog qui est arrivé, boum, du jour au lendemain. Ça s'est construit tranquillement, tranquillement, tranquillement. C'est un brouillard qui s'est installé tout simplement.
Fait qu'il y a des grands mamans chinoises qui disent « Ah, avant, il n'y avait pas de brouillard, puis maintenant, il y a du brouillard, dans le fond. »
Tout à fait. Mais il y a une prise de conscience en ce moment que c'est des problèmes de smog. Et puis, il y a un documentaire qui a été fait par une journaliste chinoise au printemps 2015 qui présente les problèmes de qualité de l'air en Chine. Il y a 300 millions de personnes qui ont vu le documentaire dans les premières semaines. Est-ce que ça a été suffisant pour prendre une prise de conscience? Je le sais pas, mais c'est certain que le gouvernement chinois travaille sur des impératifs d'environnement pour la qualité de l'air et la qualité de l'eau. C'est sur leur liste vraiment des priorités, probablement plus que ce qui est de gaz à effet de serre et de réchauffement climatique, parce que ça leur cause des problèmes de santé publique immédiats.
On est chanceux ici, il n'y a pas trop le smog de la Chine. Est-ce que ça vaut quand même la peine qu'on s'intéresse à ça?
Ben, il y a des enjeux de qualité, des enjeux de planification urbaine qui nous touchent tous. C'est-à-dire que ce qui se passe en Chine en ce moment, c'est un ordre de grandeur beaucoup plus grand, ne serait-ce que par la population qui est des concentrations de population qui sont là-bas. Mais la solution qui est chinoise sont les mêmes. Ces solutions-là sont les mêmes que celles qui devraient être déployées au Québec, c'est-à-dire planification du territoire, faire en sorte que les gens utilisent moins leur automobile. Les normes aussi pour les moteurs diesel, ce que Volkswagen a fait en trichant sur son logiciel. Les normes, c'est une chose, mais il faut aussi faire en sorte que ces normes-là soient respectées.
Au moins 110 pays reconnaissent le droit de leurs citoyens à de l'air pur. Ça semble une évidence, mais pas pour la Chine. Et à ma grande surprise, pas pour le Canada non plus. Je vous invite à consulter le site web du projet Bleu Terre, qui vise à faire reconnaître le droit de vivre dans un environnement sain, à de l'air pur, à de l'eau fraîche et à de la nourriture saine. Ça m'apparaît comme la base. Vous pouvez aussi consulter le documentaire Sous le dôme, duquel il a été question dans notre conversation avec Miguel Tremblay, en visitant la page Wikipédia du film.
Guillaume, t'entends-tu? Qu'est-ce qui se passe, là?
Phil, c'est quoi qui se passe avec ton radio?
Écoute, je sais-tu, moi, je viens de capter ça. Par la barre.
On dirait qu'il y a quelqu'un qui essaie de nous jaser.
On dirait que c'est du baragouinage, on dirait que c'est du russe, mais je suis pas sûr. Écoute, attends un petit peu, on va s'intoniser un peu.
Mais qui parle?
Me captez-vous? Début de l'évaluation de la mémoire chez les astronautes en orbite. Je suis russe, ainsi que le premier homme à voyager dans l'espace et à faire une orbite complète autour de la Terre à bord du Vostok 1. Après avoir survécu à la Seconde Guerre mondiale, je voulais être gymnaste, puis technicien en machinisme agricole. Mais malgré que c'est en aviation que j'ai eu. Pilote d'avion de chasse MiG-5, diplômé de l'École militaire d'aviation d'Orenburg, j'ai été sélectionné seulement 2 ans plus tard pour le programme spatial russe. Ma petite taille a été un atout qui me permettait d'entrer dans l'habitacle. Ce programme était tellement secret que personne dans mon entourage n'était au courant, même pas ma femme. Elle se doutait évidemment de quelque chose. La lettre que je lui ai laissée quelques jours avant mon départ n'a dû plus confirmer ses soupçons. La salle dans laquelle je suis, partie du cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan. Le fait qu'il n'y avait pas de décompte au départ n'a pas aidé. Seul robot n'aurait pas été nerveux. Je vous parle de ça, et ça fait déjà 1h45 que j'en vais autour de la Terre.
J'ai pu profiter de la vue de notre belle planète bleue et des étoiles lors de mon passage du côté de sa façon. La vue était imprenable. M'entendez-vous en un? Bon, il ne me reste qu'à redescendre. La fin d'une chute perpétuelle qui m'a trajectoire. Je suis prêt à mon éjection au pré-atterrissage. C'est dangereux et il ne me reste plus qu'à survivre. Nous avons gagné la course vers l'espace contre ces satanés américains. Peut-être que comme héros national, j'entraînerai les futurs astronautes russes et que j'aurai l'opportunité de voyager hors de la Russie comme ambassadeur. On verra ce que les autorités voudront ou décideront.
Guillaume, c'était-tu Yuri Gagarin qu'on entendait?
Oui, mais il est mort en 1968 dans un crash d'avion.
Hein?
Texte et narration de Arnaud Choquette.
Jodorowsky Dune est un film documentaire réalisé par Frank Pavich, sorti en 2013. Ce film décrit la tentative du réalisateur chilien Alejandro Jodorowsky d'adapter le roman de science-fiction Dune de Frank Herbert au milieu des années 70. Après La Montagne Sacrée, Michel Sédoux propose à Alejandro de produire son prochain film. Il travaille avec les artistes Jean Giraud, H.R. Giger et Chris Foss sur les aspects visuels, ainsi qu'avec les spécialistes des effets spéciaux Dan O'Bannon. Il prévoit alors que la musique serait composée par Pink Floyd et Magma. La distribution comprendrait David Carradine dans le rôle de Leto Atreides, Salvador Dali, qui serait l'empereur Padishah Shaddam IV, Orson Welles, baron Vladimir Harkonnen, Mick Jagger dans le rôle de Fed Rota Harkonnen, Francis Jodorowsky dans le rôle de Paul Atreides, Udo Kier dans le rôle de Peter De Vries et Amanda Lear dans le rôle de la princesse Irulan. Lorsque l'équipe de production recherche 5 millions de dollars pour finaliser le budget, elle se heurte au refus des studios hollywoodiens qui craignent le tempérament de Jodorowsky. La production s'arrête alors.
I want to create a prophet to change the young mind of all the world. For me, Dune will be the coming of a god, artistical cinematographic god. For me, it was not to make a picture. It was something deeper. I wanted to make something sacred, free, with new perspective, open the mind. Because I feel in that time myself inside a prison, my ego, my intellect, I want to open. I start the fight to make Dune.
Le croiseur interstellaire Raptor amorça sa descente sur la planète ressource Esperanza du système Arturion. Le commandant Vega donnait les instructions nécessaires en vue du déploiement des chasseurs en vue d'une attaque totale, définitive et démesurée contre le semblant de résistance organisé par les indigènes locaux. Cette planète allait servir d'exemple pour tous les systèmes environnants.
Paré pour le débarquement, commandant.
Bien. Tir de semence sur l'astroport, ionisation complète des communications, bombardement sur tout vaisseau de plus de 2 mètres ayant des visées belliqueuses.
Bien, commandant.
Sauf votre respect, les hôpitaux et les écoles semblent dangereusement rapprocher des cibles convoitées. Je suggère...
Oseriez-vous discuter mes ordres, sergent?
Mais enfin, Commodore, c'est que...
Contentez-vous d'exécuter mes ordres. Feu à volonté.
Le ciel s'obscurcit d'un essaim d'ornithoptères vrombissant tels des libellules noires se rapprochant de plus en plus de la cité souveraine d'Esperanza. Selon les spécialistes de l'histoire officielle, cette petite planète agricole n'avait point connu de guerre depuis plusieurs centaines d'années. La surprise des impériaux fut totale lorsque des canons anti-aériens répliquèrent la première vague, décimant les rangs trop confiants des ornithoptères.
Commodore, une forme de résistance semble s'être organisée au sol.
Je veux des droïdes espions sur le terrain. Rapport détaillé sur les forces en présence. Déployez les forces au sol en vue d'une prise de la cité par voie terrestre.
Au moment où la deuxième vague de libellules noires déferla sur la cité, bombardant de missiles ionisants, la frégate rebelle Libertad sortit de l'hyperespace, prenant totalement par surprise le croiseur impérial.
Escadron bémol, à vous de jouer!
Nous avons la cible en vue! Canon à plasma armé! Feu à volonté!
Visez les flancs et la passerelle du croiseur impérial!
Chef, nos canons semblent inoffensifs face à leur écran de force! Tout porte à croire que nous avons affaire à une nouvelle technologie encore inconnue.
La minuscule frégate de l'Alliance Rebelle n'était pas de poids contre le cuirassé de l'Empire lourdement armé avec son tout nouvel écran de force romulanaise. Seul un croiseur interstellaire de classe C pouvait encore ne serait-ce que de tenter de l'effleurer.
Préparez le canon à ions. L'Impérateur veut l'équipement intact et les rebelles en état de parler.
Préparez le canon à ions!
Feu!
Au moment où le canon projeta sa gerbe de particules ionisantes, une explosion fit secouer le croiseur des Impériaux où plusieurs centaines de personnes périrent lorsque le vide s'engouffra subitement à l'intérieur de la salle des machines.
Que s'est-il passé? Canonnier au rapport!
Sur l'écran de communication, un feu ravageait une salle des machines en alerte maximale. Le canonnier en chef, le visage couvert de suie, dirigeait des hommes qui couraient en tous sens.
Commandant! Commandant! Nous avons été sabotés. Il y a un traître à bord. Voici les images des caméras de surveillance. J'ai communiqué à votre investigateur les informations menant à toutes les informations importantes.
Une deuxième explosion secoua le vaisseau, réduisant à néant la salle des machines. La frégate rebelle, profitant de la brèche dans la protection du croiseur impérial, concentra tous ses canons par la brèche causée par l'explosion de la salle des machines. Pendant ce temps-là, au sol, les rebelles infiltrés sur Esperanza luttaient sur tous les fronts contre des forces impériales suréquipées et beaucoup mieux entraînées. La connaissance du terrain donnait par contre un certain avantage aux rebelles, mais le surnombre limitait son influence.
Droïde espion de classe Arcanoid X-32 au rapport. Une force rebelle importante est en présence sur Esperanza. Évaluation des forces à venir. Dispose de canons antiaériens au sol. Une flotte de chasseurs est prête à...
Un coup de disrupteur éclatait le droïde espion en plusieurs fragments de particules électroniques.
Préparez un destructeur de planète. Nous allons écraser cette infection avant qu'elle ne se propage et donner un exemple à l'ensemble des sous-systèmes de secteur.
À ces mots, un silence de mort s'abattit sur la passerelle du croiseur impérial. Jamais encore les hauts officiers n'avaient fait usage d'un destructeur de planète, arme maudite rarement utilisée tant sa portée destructive était difficile à évaluer.
Un de vous aimerait contredire mes ordres? J'ai ordonné la préparation d'un destructeur de planète.
L'atmosphère était tendue sur la passerelle. Personne ne semblait vouloir être responsable de ce crime contre l'humanité.
Mais, mon Commodore, il y a sûrement d'autres options!
Le Commodore fit usage de son pouvoir psionique sur le sergent récalcitrant. Le sergent tomba à genoux en se retenant sa tête de douleur, les veines bouillonnantes, son crâne gonflé par le sang.
J'ai dit exécution!
Dans la salle des commandes, les hauts officiers sortirent immédiatement de leur torpeur et exécutèrent les ordres du Commodore pendant que le sergent agonisant sur le plancher s'agitait en tous sens. Pendant ce temps, dans la soute à missiles du croiseur impérial, le rebelle infiltré faisait l'inventaire de l'armement à bord du vaisseau.
Non, ce n'est pas possible. Est-ce bien un destructeur de planète que je vois là? Je croyais que cette arme était pure mythologie. Je dois y trouver un moyen pour saboter cet engin de destruction. Ah, mais que vois-je là? Le projet Noah, un accélérateur de vie pour planètes ressources en devenir. Je vais trafiquer les coordonnées du destructeur de planètes afin que, si les Impériaux décident de l'utiliser, ce soit Noah qui soit largué sur la planète.
Tiens, tiens, voici notre saboteur. J'étais certain de vous trouver ici.
L'investigateur venait de surprendre le rebelle infiltré alors que celui-ci terminait de préparer le transfert des missiles. L'investigateur dégaina son disrupteur. Le rebelle plongea derrière les machineries et une course-poursuite s'engagea pendant que les commandes automatiques de mise à feu chargèrent le missile Noah dans la soute à missiles. Malgré les grandes compétences de l'investigateur, il n'osa pas tirer de peur de faire sauter le croiseur interstellaire au grand complet. Il préféra dégainer sa chimio-rapière, son arme de prédilection. Au sol, les Impériaux avaient subi de lourdes pertes et chacun des points forts du combat étaient défendus par les rebelles et les habitants de la cité souveraine. Les forces impériales reçurent alors l'ordre de se retirer de la cité. Les rebelles, voyant la défaite des impériales imminente, poursuivirent les forces en débandade et firent de graves dommages dans l'armée en déroute.
Le destructeur de planète est paré, Commodore.
Et les forces terrestres se sont retirées du front.
Yeah.
Le Commodore savourait le pouvoir de mort résidant par sa seule volonté.
Démolécularisez-moi cette capitale.
Le combat au corps à corps était férocement engagé entre l'investigateur et le saboteur rebelle lorsque le sas à missile fut ouvert pour l'armée des destructeurs de planète. La brusque irruption de vide prit l'investigateur au dépourvu et se fit brutalement aspirer vers l'espace au même moment que le missile. Le rebelle, ayant prévu le coup, s'était agrippé solidement et luttait de toutes ses forces contre les forces du vide intersidéral qui l'envahissaient et l'étouffaient. Noah tombait doucement sur Esperanza avec, chevauchant le missile solidement agrippé à ses côtés, l'investigateur se consumant déjà dans l'atmosphère de la planète. Un silence de mort régnait dans la salle des commandes. Pendant que les hauts officiers assistaient impunément à la destruction de la capitale et à la mort d'une centaine de millions d'innocents, au sol, les rebelles célébraient déjà leur victoire, lorsqu'un éclaireur au regard vif vit le missile descendre vers eux, éclipsant le lever d'un des deux soleils.
Regardez! Planquez-vous, fuyez!
L'impact de Noah fit trembler la Terre, mais au lieu d'une déflagration, ce fut un nuage de poutre dorée qui s'éleva dans l'atmosphère, recouvrant la cité souveraine d'un nuage opaque. La végétation, sensible à cette magnifique force de vie, décupla de vigueur et se déploya à une vitesse inquiétante. En l'espace de quelques minutes, la cité souveraine fut recouverte de végétaux, s'épaississant jusqu'à devenir une véritable jungle luxuriante.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est bien la première fois que j'entends parler que les impériaux pouvaient lancer des fleurs.
Dans la salle des commandes, la colère s'était emparée du commodore et plusieurs sous-fifres payaient sa mauvaise humeur de leur vie. Pendant ce temps, dans la salle des machines, le saboteur rebelle avait terminé de poser les derniers détonateurs thermaux qui allaient faire exploser le destructeur de planètes au sein même du croiseur interstellaire. Il eut juste assez de temps pour gagner une des capsules de sauvetage avant que le croiseur n'explose dans un fracas sans bruit, puisque dans l'espace, personne ne vous entend crier. Le système solaire tout entier fut déclaré par l'impérateur hors la loi et de nombreuses expéditions punitives furent intentées sans succès. L'effet Noah s'est maintenant propagé à l'ensemble de la planète, la recouvrant maintenant d'une épaisse jungle de plusieurs centaines de mètres de hauteur, offrant une couverture privilégiée à la force rebelle grandissante au sein du funeste Empire galactique. C'est ce qui conclut le 24e épisode de Aube.
Toutes nos émissions sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via laplumedefeu.com.
Si vous vous sentez inspiré par notre émission, nous vous invitons à bord de notre capsule. Chaque émission est le fruit des collaborateurs du moment.
Si vous avez deux secondes pour téléporter vos commentaires, laplumedefeu.com, Facebook ou via Twitter.
Dans cette émission, vous avez entendu les œuvres de Philippe Laramé, Guillaume Lambe,
Aurélie Subercico, Jean-Baptiste Gardarin, Arnaud Choquette, Marie-Claude Journaud, Maude Campo,
Annie Schneider, Martin Junior Pelletier et Florence Morin.
À la co-réalisation, au montage et à la mise en onde, Philippe Laramé et Guillaume Lambe.